T'as des cohortes toutes faites de personnes qui viennent. Et donc, du coup, par opportunité, on a ouvert cette boutique. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, en fait, il y a vraiment un attrait, en fait, au-delà des valeurs aussi du local qui allait bien avec nous, notre modèle. Le retail classique n'est pas mort, contrairement à ce qu'on pense. Et le mix n'est pas incompatible du tout.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Vous allez voir, mon invité aujourd'hui n'a pas sa langue dans sa poche. Personnage de caractère bien trempé, à la résilience forte et au verbe bien tranché également. Marie Nguyen n'est pas rentrée dans le game de la mode pour faire les choses à moitié. En 2018, après des études de biotech et chimie, oui, comme quoi, Marie se lance avec Antoine Coulot, dans un projet qui colle bien à sa perso et à son époque. Peu de temps après, rejoint par Kevin Chavan, ils ont lancé depuis Lyon, We Dress Fair, une startup e-commerce qui a de grandes ambitions dans le monde de la mode, de la tech et de la slow fashion. On va vous expliquer tout ça. Salut Marie.
Salut.
Merci de faire une halte au micro d'Innovation Leaders. On n'entend parler que de toi, que de vous, que de We Dress Fair en ce moment. C'est canon. Et canon cette présence médiatique. J'ai entendu parler de toi récemment d'ailleurs. Tu as été pas mal remonté par la présence de Shine à Lyon. Vous savez, cette marque de fringues chinoise, je crois, qui tente de se faire une place en Europe. Ils ont décidé d'ouvrir une boutique qui était éphémère, il me semble, à Lyon, mais malgré tout. Et je crois que ça t'a pas beaucoup plu,
non,
ça.
Pas du tout.
Pourquoi ça te plaît pas?
Alors, le modèle de Shine, c'est,
c'est
un peu particulier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra fast fashion. Donc, on va au-delà des modèles comme Zara, H&M, qui déjà étaient de ce qu'on appelle la fast fashion. Donc, on produit rapidement, à bas coût, des vêtements dont personne n'a besoin. Mais l'idée, c'est de faire du repeat et de créer des besoins auprès des clients. Shein, c'est encore pire que ça. C'est donc, chez Zara, H&M, on est à peu près à 30 collections par an. Chez Shein, c'est entre 2000 et 6000 références par jour. Nouvelle référence par jour qui sort.
Donc, on est même plus
sur des collections. Je ne sais pas comment c'est possible, hein, mais c'est en tout cas ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, en fait, ils sortent des modèles et en fonction de la demande, ils vont faire produire dans plein de petits ateliers en fait en Chine. Et la problématique de ça, c'est qu'on est revenu sur des productions non contrôlées dans des ateliers qui sont aujourd'hui pas du tout sécurisés, qui ont des problématiques de sécurité de l'emploi, de bon salaire, etc. Et en fait, nous, ça ne nous plaît pas pour toutes ces raisons sociales, pour les raisons environnementales qu'il y a derrière Chine, produire entre... Enfin, mettre des nouvelles références entre 2000 et 6000 nouvelles références par jour, derrière, ça veut dire qu'il y a des productions monstrueuses encore plus grandes que ce que fait Zara et H&M aujourd'hui. Et ça, d'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas incroyable. Et pour tout ce qu'il y a derrière sur le côté poussif du marketing de Shein, qui est de vendre toujours plus de produits dont on n'a pas vraiment besoin.
On en fait quoi de tous ces produits qui sont consommés? Ils finissent comment? Ils sont réutilisés et remis dans le circuit, recyclés?
Très bien.
Ouais, c'est ce que basiquement je peux imaginer, mais pas du tout.
Aujourd'hui, réellement, dans le monde, on produit 100 milliards de vêtements par an. On est 7 milliards d'humains, donc on produit entre 12 et 13 vêtements
par personne par an,
sachant que sur les 7 milliards, il y a des populations qui ont moins accès aux vêtements, donc en fait, qui eux n'achètent aucun vêtement. Donc en gros, sur les pays riches, on est en moyenne à 28-30 pièces par an par personne. Et réellement, dans les chiffres aujourd'hui, on ne recycle en vêtements que 1% des vêtements. Donc on est vraiment sur un trajet direct de j'achète, je porte, poubelle. Enfin, vraiment, c'est le modèle de la mode aujourd'hui et de la mode rapide, c'est ça. Donc, la circularité aujourd'hui, elle est vraiment juste dans l'image, mais elle n'existe pas.
Mais tu m'avais dit aussi que ça, potentiellement, ça partait en Afrique ou dans les pays qui sont en voie de développement. Et en fait, on casse le modèle économique des pays en voie de développement parce qu'ils reçoivent des vêtements qui finalement empêchent l'économie locale de se développer.
Ouais, en fait, ils en ont pas besoin. En fait, autant que nous, on en a pas besoin, eux, ils en ont pas besoin. Et c'était l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, donc le Burkina était un pays qui produisait et qui produit toujours du coton, qui avait une industrie textile qui était forte. Donc, ils produisaient, ils filaient, ils tissaient, ils confectionnaient des vêtements sur place et la population locale achetait ces vêtements qui étaient produits sur place. Donc là, on est plutôt sur une économie vertueuse où on emploie des personnes sur place et on fait vivre l'économie du pays. Malheureusement, est rentrée dans l'équation la fripe des pays riches, européens et américains, qui se sont dit, on va créer un modèle où en fait, on va leur vendre, parce que nous, on croit que quand on met nos vêtements dans les bornes, on est sur quelque chose de très solidaire, mais finalement, pas tant que ça, puisque les chiffres, c'est 80% des vêtements partent à l'étranger. Et ils sont pas donnés à l'étranger, ils sont vendus à l'étranger. Donc en fait, nous on récupère de l'argent sur les fripes qu'on donne en fait sur dans les bornes. Et derrière, en fait, la problématique de ça, c'est que ces fripes sont vendues moins cher que les pays que les vêtements produits dans le pays, et donc dégradent énormément l'industrie qui est présente sur place. Et donc le Burkina Faso aujourd'hui a perdu petit à petit son industrie textile à cause des fripes américaines, des fripes européennes, et est noyé aujourd'hui de ces fripes-là. Et malheureusement, quand nous, on n'en a pas besoin, ils n'en ont pas besoin non plus. Et donc, en fait, nous, on se sert de ces pays-là pour aujourd'hui en faire notre poubelle. Et c'est ce qu'on voit.
Nous déculpabiliser ou en tout cas nous affranchir de plus réfléchir.
Complètement. Et alors, il y a des lois aujourd'hui quand même. On n'a pas le droit normalement de vendre et d'exporter les déchets. Sauf que le textile et les vêtements qu'on donne ne sont pas considérés comme des déchets. Même si les trois quarts finissent dans des décharges à ciel ouvert en Afrique, c'est toujours pas considéré comme des déchets. Donc, petit à petit, c'est des choses qui sont en train de changer. Mais voilà, enfin, la réalité de la consommation à outrance dans les pays riches, c'est que à l'autre bout du monde, en fait, en bout de chaîne, ben, en fait, on est en train de dégrader les industries des pays qui étaient en voie de développement, et qu'en plus de ça, d'un point de vue environnemental, on est en train de détruire des régions entières où les fripes sont placées dans des décharges et sont en train de se dégrader en polluant les sols, les eaux, etc.
Bon, je reviens sur Chine. Ouais. Tu vas aller voir à Lyon là. Ouais. Au moment où ils sont en train dans leur boutique éphémère, tu y vas pour observer ou tu y vas pour challenger, discuter, te confronter un peu, soit au public et aux clients, soit aux gérants ou aux vendeurs de la boutique, tu y vas pour quoi ?
Alors les gérants, on les voit jamais. Enfin, c'est pas du tout. Par contre, on y est allé pour. L'idée, c'était de faire un petit happening. Donc, on est allé frapper aux fenêtres en face du pop-up qui était ouvert. Et en fait, on a mis des affiches énormes en A0 où on écrivait les conditions de fabrication de Chine. Et donc, toutes les personnes qui rentraient, et on a été super bien accueillis. On a, la première porte où on a frappé, on l'a demandé aux voisins, est-ce qu'on peut mettre des affiches? Ah oui, mais je voulais le faire. Quand j'ai su qu'il y avait Chine, je voulais le faire. Donc vraiment, on a été super bien accueillis.
Et c'était des gens, des habitants, des locaux, pas des boîtes.
Ah, pas du tout. On les connaissait pas du tout, ouais. Donc du coup, ça, c'était vachement intéressant. Déjà, on a pu discuter avec ces personnes-là et savoir pourquoi eux, ils étaient contre, etc. Et en fait, notre but, c'était d'interpeller. Donc ça, on essayait de voir en fait les réactions des gens, et derrière, par contre, on allait discuter avec les personnes dans la file d'attente. Et on s'est rendu compte de plein de choses. La première, c'est que les trois quarts sont au courant. Donc, c'est des femmes en grande majorité, sont au courant de tout ce qui se passe derrière. Mais pour elles, il n'existe pas d'alternative. Et en fait, quand on creuse un peu plus loin, donc on leur dit, mais si, quand même, il y a la seconde main, il y a les marques de mode éco-responsables. Et en fait, elles ont vraiment dans la volonté de consommation de la mode une quantité. Et tant qu'en fait, ça, on n'aura pas attaqué cette problématique-là, tant qu'en fait, on n'aura pas changé les modes de consommation, pour elles, l'alternative à la fast fashion, c'est la fast éco-responsable, enfin, la fast fashion, ça se dit pas, tu vois, ça n'existe pas.
Ouais.
Et donc, j'ai essayé de leur expliquer par A plus B qu'en fait, avoir une entreprise de fast fashion et faire de l'éco-responsable, c'est complètement antinomique, ça ne marchera jamais en fait, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et on a beau essayer d'expliquer ça, voilà, c'est toujours pas rentré dans la tête, et donc du coup, elles ont vraiment cette incohérence de dire, oui, je sais que c'est mal produit, mais en fait, aujourd'hui, c'est soit je vais chez Chine, soit je vais chez Zara ou H&M, et donc en fait, c'est un peu comme choisir la peste ou le choléra, et du coup, ben, je m'en fous, quoi, je vais y aller, de toute façon, c'est pas grave.
Dans le mindset dans lequel ils sont.
Exactement.
Parce qu'effectivement, quand
exactement.
On veut consommer beaucoup, bah oui, il faut réduire sur les prix.
Ouais.
T'en parles bien, mais pourtant, c'est pas ton univers premier, le monde de la mode et de la, ouais. Et du fashion. T'es pas une fashionista, ce qui t'empêche pas d'être très élégante et d'être sensible à la fringue en règle générale. Comment t'es arrivée à cet univers-là?
Ouais, alors du coup, de base, je sais pas si je peux revenir un petit peu sur mon parcours.
Aussi, mais... j'en parlais un peu au début, c'était pas la voie que tu cherchais.
C'est pas
dans laquelle tu te lançais,
exactement.
En tout cas.
Moi, je pense que depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'avoir un impact sur le monde qui m'entourait. Et j'étais, en gros, dans ma famille, il y a deux profils, un profil entrepreneurial, donc il y a des entrepreneurs dans ma famille, et de l'autre côté, il y a de la santé, des chercheurs, des scientifiques, des médecins, etc. Et après, le troisième, il y a des artistes aussi. Donc, il y a un peu trois...
Qui te correspond un peu. Sur... Ça a pris un petit peu de cet ADN-là,
ouais,
aussi.
Ouais, carrément. Et du coup, j'avais pris le côté médecine, ce qui m'intéressait énormément, le côté recherche, etc. Donc, au départ, je pensais que je voulais être médecin. Puis finalement, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de creuser une question en particulier. Et donc, je suis partie dans la recherche. Donc, j'ai fait de la cancérologie à la base, et puis après est venue la tech derrière qui m'intéressait énormément, et plutôt tout le côté matériel, hardware, et donc du coup je suis partie sur biotech et nanotechnologie et cancérologie. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est un monde qui est très lent. La recherche, faut être hyper créatif, et je pense que c'est une des forces que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai la capacité de peut-être sortir un petit peu des boîtes toutes faites, du moule, ce qui n'a pas du tout plu en recherche, parce que ben en fait, dans la recherche, on essaye de rentrer dans un certain cadre. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment trop pressée dans ce cadre-là. J'ai un exemple, on faisait des analyses d'images et on me demandait d'analyser à la mano une image. Et moi, je traitais en un week-end, je faisais 3000 images. Donc, ça me prenait 3 mois après pour analyser une expérience que je faisais.
C'est déprimant, quoi, en termes de...
Ultra déprimant. Donc, moi, premier réflexe que je fais, c'est genre, je me suis dit, mais en fait, je suis persuadée qu'il y a du traitement d'image qui existe et on peut écrire des scripts pour analyser automatiquement ces choses-là. Et donc, j'ai profité, j'avoue, d'un congé de ma boss pour me dire, OK, pendant ces 4 jours-là, je vais chercher comment faire. Et donc, en fait, elle est revenue de ses congés. J'avais réussi à développer un script. Donc, j'avais appris à coder en bidouillant des trucs à droite, à gauche, en regardant, en faisant comme on apprend à coder, c'est-à-dire, tu prends des blocs, tu mimes, tu vois à peu près comment ça marche.
Mais tout le monde sait pas le faire.
Ouais, je pense que, voilà, il y avait un peu cet attrait de...
cette envie d'y arriver, quoi, de trouver le truc.
Et cette curiosité de... franchement, c'est trop stylé. Si j'arrive à créer un programme qui va analyser pour moi... On dit souvent que on est bon entrepreneur quand on est flemmard, mais c'était vraiment ça. Je vais passer 3 mois de ma vie à compter des cellules une par une sur mes images, alors que je peux le faire très rapidement avec des programmes informatiques. Du coup, elle est rentrée de ses 4 jours de vacances et je lui ai montré par A plus B que j'avais réussi à faire ce petit programme-là. J'avais réussi à le faire sur des anciens traitements d'image que j'avais traités à la main, et je lui avais montré qu'il y avait des marges d'erreur qui étaient assez grandes, mais que si on le donnait à d'autres personnes plus expertes que moi, on pourrait améliorer le truc et faire que ça aille beaucoup plus vite. Et la première réaction qu'elle a eue, c'est « Et t'as passé 4 jours à faire ça ?» Genre, en gros, t'as perdu 4 jours, tu aurais pu analyser...
Pour en gagner potentiellement des dizaines.
Et genre, moi, j'étais là, non, mais je crois qu'en fait, c'est plus du tout le... En fait, ce cadre-là m'allait plus du tout, parce que...
Aucune place à la créativité, aucune place à l'innovation,
cause... L'interdisciplinarité de la recherche qu'on peut prôner, en fait, pour que ça aille plus vite, moi, je la voyais pas, tu vois, à ce moment-là, j'étais là genre, bah en fait non, on me met des barrières pour pas justement qu'on aille plus vite. Et moi, ma curiosité pour aller plus loin, en fait, elle s'est arrêtée là, quoi. Enfin, du coup, je me suis dit, ok, si c'est ça...
C'est pas là, c'est pas ton combat, quoi. C'est plus ton combat.
Si c'est ça, je vais arrêter là, quoi.
Et puis, comment t'arrives dans le textile ou les
fringues ? Comment j'arrive dans le textile, c'est que du coup, bah, quand tu perds le sens de ton job, et pour en avoir parlé pas mal autour de moi, quand tu perds le sens de ton job, le premier effet que t'as, c'est... Bah du coup, alors, c'est un job alimentaire. C'est souvent ce qu'on entend. Je vais garder mon job alimentaire et derrière, je vais aller faire du bénévolat. Et donc, moi, j'ai fait pas mal de bénévolat à Paris. Je suis passée par des assos qui luttent contre l'exclusion sociale, notamment en créant des réseaux de commerçants solidaires. C'est une asso qui s'appelle La Cloche, qui s'appelait à l'époque Le Carillon. Et on est au contact de bénéficiaires, on leur demande les besoins, etc. Et puis à côté de ça, j'étais bénévole dans une recyclerie dans le sud de Paris. Et donc les recycleries, c'est des entreprises sociales qui embauchent des personnes en insertion professionnelle ou des personnes éloignées de l'emploi ou en chômage de longue durée, qui leur apprennent à retaper des meubles des habitants du quartier ou qui leur apprennent à vendre des produits qu'ils récupèrent, du type des vêtements, des livres, etc. Un peu comme Emmaüs. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que les personnes à la rue, le besoin qu'ils avaient, n'était pas du tout ce que les personnes donnaient en fait, dans les associations. Du type, en fait, aujourd'hui, on récupère énormément dans les assos des t-shirts et des jeans. Alors là, des t-shirts et des jeans, si vous en voulez, il y en a, mais à foison, allez-y. Mais en fait, à la rue, les personnes ont besoin de choses beaucoup plus spécifiques, et notamment les sous-vêtements. Notamment chez les femmes qui sont à la rue, en fait, elles ont leurs règles et en fait, elles peuvent pas forcément avoir des protections hygiéniques à ce moment-là. Et donc, en fait, elles jettent leurs sous-vêtements et donc, elles ont besoin de renouveler assez régulièrement ces sous-vêtements. Et en fait, dans les associations, on récupère pas ces sous-vêtements parce que pour une question d'hygiène et de dignité, on récupère pas les sous-vêtements de seconde main. Donc, en fait, il faut qu'on attende les dons de neuf. Et ça, c'est quasiment...
C'est rare, un don de neuf.
C'est hyper rare, en fait. On n'a pas le réflexe d'aller acheter des sous-vêtements et de les donner dans les bornes, enfin, ou d'aller les donner dans les assos. Et en fait, je me suis, moi, rendu compte... À l'époque, j'avais, je crois, 25 ans, 24 ans. Je me suis rendu compte que les matières des t-shirts qu'on récupérait, ce qu'on appelle du jersey, c'était la matière des culottes qu'on avait et qu'on portait tous les jours. Et je me suis dit, ok, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une machine à coudre. Et bah, Donc, je me suis fait offrir ma première machine à coudre à 24 ans. Et j'ai transformé des t-shirts en culottes pour les distribuer à des personnes dans la rue. Et donc, c'est comme ça que je tombe un petit peu dans le monde du textile, où j'apprends avec des tutos, etc., déjà à coudre moi-même. Donc, je me confronte à la matière et au savoir-faire qu'il faut avoir. Et au-delà de ça, je me confronte à quelque chose qui est assez... qu'on voit tous les jours, mais que finalement, on conceptualise pas bien quand on l'utilise pas, mais c'est qu'en fait, tous les vêtements qu'on a et qu'on récupère, dont on n'a pas besoin, en fait, c'est de la matière première localement mobilisable. Et qu'en fait, aujourd'hui, on le voit comme un produit fini, démodé, qui n'a plus de valeur. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, en fait, toutes ces matières-là, si en fait, on l'a découpée, on pourrait en faire plein de coupes en tissu qu'on pourrait réutiliser. Et donc vient la première idée entrepreneuriale qui est ok, j'ai dit à mes potes, c'est n'importe quoi. J'ai dit à mes potes, je récupère vos fringues, donnez-les-moi. J'avais 21 mètres carrés en dehors de Paris dans mon appart. J'avais une montagne de fringues sur mon lit que je récupérais et en fait tous les soirs, je découpais des mini coupons dans les vêtements en fait qui se vendaient pas, enfin que mes potes m'avaient filé. Et tous les dimanches sur les marchés, je vendais des coupons de tissu. Et en fait, je me suis rendu compte.
Et qui achète ça ?
Et voilà. Et ben, je me suis rendu compte que, genre, les passants, mais bien sûr, Marie, les passants qui sont à les marchés, il n'y a personne qui t'achète ça. C'est genre impossible. Enfin, c'est pas du tout. Par contre, ceux qui m'achetaient ça, ceux qui étaient super intéressés, c'était tous mes collègues qui vendaient des petits accessoires de mode, qui vendaient des chouchous, qui vendaient des bavoirs pour les pieds, les choses comme ça. Et en fait, eux, ils étaient super intéressés parce que c'est de la matière pas chère. C'est de la matière première pas chère. C'est de la matière première où ils connaissent à peu près la provenance, parce qu'en fait, c'est de la réutilisation. Ils ont des tonnes de matières différentes. Donc, ils fouillaient dans les coupons. Ils disaient « Ah, ça m'intéresse, etc. » Du coup, j'étais là « Ok, ben, en fait, c'est quelque chose qu'il faudrait faire à destination des petits professionnels. » Et après, petit à petit, ils m'ont demandé « Bah là, tes coupons, ouais, Marie, tes coupons, ils font 10 centimètres sur 20 centimètres. C'est ridicule, je peux pas faire des vêtements pour bébé, etc. » ou des séries, des petites séries de collection. Et en fait, je suis allée chercher un peu plus loin. Je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas des chutes un peu plus loin que bah, juste des découpes de vêtements? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chutes d'industrie. Et donc, les industriels, aujourd'hui, pour calibrer les machines, ils ont des métrages, donc des dizaines de métrages de tissus qu'ils jettent, donc qu'ils découpent et qu'ils jettent. Et en fait, bah, j'ai commencé à me dire, ok, je vais récupérer ça, faire une plateforme où en fait, les professionnels et les petits professionnels, ceux qui font ce qu'on appelle de l'upcycling, vont pouvoir acheter la matière première.
Ok. Comment vous vous rencontrez avec Antoine Coulot? J'ai pas fait le lien encore dans ce parcours-là.
Alors Antoine, c'est celui qui a l'initiative du projet Woodress Art. Donc c'est lui qui a premièrement eu l'idée du coup de créer la plateforme. Et donc moi, avec ce projet-là que j'avais de réutilisation des textiles, je suis sélectionnée à un programme d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ticket for Change, qui est un
Mathieu Dardaillon, je crois.
Exactement. Ouais.
J'aimerais bien avoir à ce micro un jour.
Bah, j'allais te le proposer.
Ah, bah, on en parle après. On en parle après.
Et du coup, l'idée derrière Ticket for Change, c'est d'aider les personnes qui ont des idées à passer à l'action. Et donc, bah, quand on vient pas du tout du monde d'école de commerce ou quoi, en fait, on a zéro l'entrepreneuriat, en fait, on a zéro méthode pour savoir okay, comment on fait pour monter une boîte. Et donc, moi, je m'inscris dans ce parcours et je suis sélectionnée parmi 50 entrepreneurs et on fait ce qu'on appelle le Tour de France de l'entrepreneuriat social, donc avec sélectionné avec 50 autres entrepreneurs, 60 autres, non c'était 50 autres projets, 60 entrepreneurs, et on est dans deux bus et on fait 4 villes de France pendant 10 jours. Donc déjà c'est une expérience humaine incroyable. C'est tu bien. Rencontres que des gens qui sont comme
passionnés,
toi,
et qui sont dans et ton univers, quoi.
Et qui sont pile poil la même phase de développement que toi. Enfin c'est incroyable quand même d'avoir autant d'entrepreneurs et pendant 24 heures sur 24. C'était épuisant. C'était épuisant parce que tu parlais de ton projet.
Tu notes
tout le
plein de trucs, plein d'idées qui fusent.
Franchement, c'était incroyable. Puis en plus, tous les jours, on te met des nouveaux coachs en face de toi qui vont te parler de ton business model, ta communication, tes statuts juridiques. Et toi, c'est là, mais ton cerveau, il fuse pendant 10 jours, quoi. Et c'est là où je rencontre Antoine. On était plusieurs sur le secteur du textile, mais on était les deux seuls qui montaient pas des marques. En fait, il y avait pas mal d'autres entrepreneurs qui montaient des marques réellement. Et nous, on était plutôt sur des modèles de commercialisation, de distribution, de services. Et du coup, tous les deux, on se retrouve dans toutes les confs ensemble, dans tous les avec les coachs. On avait les mêmes coachs. Et on se challengeait pas mal. Et un jour, il me dit, à la fin du parcours, il me dit ce qui est ouf, c'est qu'en fait, on a la même problématique. Mais on a deux solutions différentes. Toi, tu l'attaques à la fin du projet, à la fin du problème. Donc, effectivement, moi, je m'attaque à quand on a créé tous ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Et il dit, moi, je m'attaque à la cause.
Avant, si possible, pour pas créer ces déchets-là, en fait.
Pas créer ces déchets. Et il me dit, tu trouves pas que, en termes d'impact, si on s'attaquait tous les deux à la cause, ben, en fait, on fermerait le robinet, mais en fait, on n'aurait plus à s'attaquer à la conséquence. Bon, déjà, je trouvais ça vraiment pas cool.
Je me rappelle comment tu t'appelles, toi.
En plus du fait que on était très, très, très complémentaires. Lui, c'est un financier. Il a fait école de commerce. Il a été auditeur financier. Donc, il est très chiffre. Il est très structure. Il est très gestionnaire. Et moi, je suis une boule d'idées, de créativité, de communication. Et lui, il déteste parler. Et du coup, vraiment, au-delà de la complémentarité, mais vraiment extrême, on avait aussi ce côté de... en fait, on a attaqué déjà une réflexion sur les deux bouts du problème. Et donc, en fait, à se rejoindre, on aurait vachement de choses à apprendre l'un de l'autre et à monter ensemble.
Canon.
Et voilà.
Et une fois qu'on se tape dans la main et qu'on décide de se lancer, vous passez par quoi comme étape? De 2018 où vous avez démarré, je crois.
On a comment Ticket for Change, c'est 2017. Ouais.
Okay. Donc, 2018, le projet se lance Woodress Fair. Et là, entre 2018 et 2023, quelles ont été les grandes étapes de ce projet?
Ouf, il y en a eu tellement. La première, c'est... alors déjà, Antoine, il avait pas du tout de formation tech. Et en fait, on voulait quand même monter une marketplace. À la base, c'était full marketplace. On voulait pas du tout avoir de stock. Tu as l'idéal d'entrepreneur, on va partir à l'autre bout du monde.
Tu recrutes pas, ça tourne tout seul.
Exactement, ça tourne tout seul et t'as pas besoin d'équipe. Tout va bien marcher. Et lui, il a fait une formation. Il s'est quand même dit, pour faire de la tech... J'ai quand même besoin d'une formation tech. Donc, il a fait le wagon à Lyon. Il fait partie de la première promo qui est sortie du wagon. Et il a développé au wagon, il a eu la chance de pouvoir développer la première maquette de WeDress Fair là-bas. Et donc, il avait déjà ce proto. Et donc, déjà, de base, on avait ce MVP, quoi. Et on s'était dit, OK, bah, on se lance full marketplace. Et en fait, je pense que c'était quelques mois avant le lancement. Je pense que c'était un mois et demi, deux mois avant le lancement. On contacte les grosses marques de mode éthique qui aujourd'hui sont les plus connues, qui allaient nous donner de la crédibilité, de la visibilité, du type Veja Patagonia, etc. Et Veja Patagonia, les marketplaces, c'est hors de question. C'est pas leur modèle, ça les fait chier, ils vont pas envoyer des colis à droite à gauche. Enfin, en plus de ça, quand on se met sur des marketplaces, les marques, elles peuvent pas prévoir la quantité de production, puisque du coup, en fait, c'est du flux tendu, quoi.
Elles préfèrent vendre leur stock.
Donc, elles préfèrent vendre leur stock. Et du coup, elle dit, nous, on marche que comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez du Veja, si vous voulez du Patagonia,
vous achetez
du Veja. Et là, on se dit, putain, c'est pas du tout notre modèle. Enfin, on connaît pas
et
ça.
Et pourtant, ces marques-là, c'est des références. On peut difficilement faire sans.
Mais en fait, c'est ça. On s'est dit, la problématique, si on fait sans, c'est qu'en fait, on va se lancer qu'avec des marques inconnues. Et en fait, on va pas du tout leur apporter de visibilité. Et nous, on va pas du tout récupérer des clients, en fait. Donc, il faut absolument qu'on les ait à côté de nous. Et donc, on a fait un mini pivot dès le début, en fait, où du coup, on s'est dit, OK, la marketplace, on garde parce que c'est hyper important, ça nous permet d'avoir des datas, etc. Par contre, en fait, il nous faut du stock. Et on était à ce moment-là incubé chez Make Sense à Paris. Et en fait, on a emprunté ultra rapidement. On a dit à des proches, les gars, il nous faut de l'argent. Il faut qu'on achète du stock. Je crois qu'on a emprunté 15 000 euros, je crois, à nos proches. Et on part entre capital, hein. On leur a juste dit, on n'a pas le temps pour ça les gars, juste donner du cash, on verra plus tard comment on vous rémunère, mais voilà. Et du coup, on a acheté nos premières collections de toutes ces marques-là, ce qui a fait qu'on a commencé à lancer la première version du site en mai 2018, avec des marques reconnues, des marques moins connues, en marketplace, on commençait à avoir de la data, etc. Et donc, on a lancé, à l'époque, ça se faisait beaucoup plus que maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moins utilisé, mais on a fait un crowdfunding. Et en fait, un crowdfunding sur une plateforme, c'est un peu bizarre, ça ne se fait pas trop. Et on a quand même réussi à récolter, je crois, c'est 11 000 euros, un truc comme ça. Et en fait, surtout, on pensait qu'on allait avoir que nos proches qui allaient acheter des petits,
Par sympathie, quoi.
Ouais, par sympathie, mettre de l'argent dans le projet, quoi. Et en fait, on a eu 350 personnes qui ont participé. Et en fait, c'est surtout 350 personnes qui nous ont fait des retours de malades en nous disant, mais en fait, les gars, ça fait 1000 ans qu'on attend ça. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, il y a un vrai... Derrière, il y a quand même un attrait, un vrai besoin. Et les gens, en fait, sont prêts à acheter puisqu'en fait, ils ont participé à ce crowdfunding. Et donc, on a lancé la plateforme comme ça. Petit à petit, on a réussi à débaucher le prof du Wagon Lyon qui ont payé en presta sur le site parce qu'Antoine, il avait 9 semaines de code dans les doigts, donc il n'avait pas grand-chose. Même s'il se débrouillait de ouf, on avait quand même besoin de quelqu'un tech derrière parce qu'on savait que notre produit, il était pur tech, en fait. Et donc, on le payait en presta un petit peu, Kevin, et puis petit à petit, il aimait bien les gens, il aimait bien l'équipe. Et petit à petit, on a réussi à le débaucher. Du coup, en octobre 2018, il nous rejoint en tant qu'associé, donc à 10% au départ. Et maintenant, il a 20% de la boîte et il est autant impliqué dans l'équipe à 100%. Et il n'est plus du tout au wagon. Et enfin, voilà.
Bon, tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu de la dynamique.
Ouais.
En termes de nombre d'articles, en termes de, je ne sais pas si vous communiquez sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de visiteurs, ouais. Sur le nombre de clients. Voilà, ouais. La vision chiffrée de WeDress Fair, ça ressemble à quoi?
On a notre cinquième année. On pense cette année faire à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a fait... donc c'est un peu, il y a la marketplace aussi dedans. Donc, en fait, on parle souvent en volume d'affaires aussi. L'année dernière, en 2022, on fait 2,5 millions de volume d'affaires. En nombre de références, on est à peu près... donc là, on vient de rentrer une nouvelle catégorie enfant-bébé. Donc, ça nous a tout de suite fait beaucoup de références qui sont. Et là, on est à peu près sur 8000 références produits.
Okay.
Donc, pour comparaison, je ne sais pas si tu connais, mais Place des Tendances, tous les sites e-commerce, ils ont à peu près 20 000 références. Donc, on n'est pas si loin. Il faut doubler encore, mais on espère y arriver d'ici 3 ans. Et nombre de commandes, on est à peu près sur 2500 commandes par mois.
Ouais, ça fait une belle logistique.
Et on a à peu près, ouais, on a 250 000 personnes sur le site par mois qui viennent.
Une centaine de commandes par jour, ça commence à être ouais. Dynamique. Combien tu dis de visiteurs ou de...
250 000 par mois. Ouais, à peu près.
Ouais, ok, beau trafic. Quand on décide de bosser avec Patagonia ou Veja, si tu leur achètes le stock, ouais. Ils te disent oui, il n'y a aucun problème, ou ils regardent aussi où est-ce qu'ils sont distribués?
Non, eux, ce qui était très drôle, c'est que Patagonia, au départ, on a pas trop osé, et puis après, c'est eux qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, donc nous, on a ouvert, on n'avait pas Patagonia, on n'avait peut-être pas sur la première collection Veja, je ne sais plus. Mais Veja, on a réussi à les avoir assez rapidement. Par contre, Patagonia, faut les
séduire.
Ouais. Et surtout qu'à l'époque, je crois que c'est toujours un peu le cas, ils étaient plutôt dans une dynamique de fermer des magasins plutôt qu'en ouvrir des nouveaux, des points de vente.
Des points de vente, ouais.
Et en
peut-être
fait,
se rapprocher de gens qui ont plus de sens pour eux qu'une
exactement.
Plateforme type Amazon.
Il leur fallait un peu de preuves quand même. Ouais. Et je pense qu'ils ont attendu qu'on ait 1 an, 2 ans d'expérience avant de pouvoir être distribués chez nous. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'à l'époque, on s'est dit, on va les chercher. On s'est pris une grosse bâche, je crois, la première fois. Le gars, il nous a reçus trop contents, machin, mais trop tôt pour eux. Et donc, ça n'a pas donné suite. Et donc, on ne les a jamais recontactés. Et en fait, à un moment, il y a un client mystère qui vient dans notre boutique. Et en fait, c'est un gars, c'est une nana de Patagonia. Et qui dit, voilà, je suis de Patagonia. En fait, on est super intéressé par votre shop.
Canon.
Et en fait, on veut vraiment intégrer WeTransfer. Et là, on s'est dit, waouh, quand elle est... C'est l'inverse qui se passe, c'est quand même vachement stylé.
Mais les mecs sont très prudents quand même, sont très quali dans leur démarche aussi.
Ouais, complètement.
Et donc tu parles de boutique, parce que oui, vous avez un site e-commerce, mais vous avez aussi une boutique, c'est pas anodin comme process de distribution. Pourquoi vous vous êtes mis en physique?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait au départ à l'instinct, et je sais pas si beaucoup d'entrepreneurs sont...
Moi, ça suis pas un modèle ou une théorie, c'est du feeling.
Vraiment, si tu lis les blogs, c'est genre non, surtout ne vous mettez pas là-dedans, le retail classique, ça marche plus.
C'est incompatible avec le online ou je sais pas quoi.
Ou les coûts sont beaucoup trop énormes par rapport au web. Enfin, maintenant, on est bien content d'avoir la boutique, petit aparté. Vu les coûts d'acquisition aujourd'hui sur le web. Et en fait, on ouvre la boutique par opportunité. En fait, on était logés au wagon à Lyon, rue des Capucins. Je crois que c'est le wagon, c'est 20 rue des Capucins. Et en fait, on cherchait des bureaux dans le coin. Et en remontant la rue, aux 4 rue des Capucins, on trouve un lieu qui fait boutique en bas et bureau en haut. Et en fait, on se dit,
imagine,
stylé, en fait.
Imagine nos bureaux là et notre boutique en dessous.
Bah ouais, on avait du stock. On était, c'est quand même super débile. On a du stock, on ne le montre pas. Donc, on faisait régulièrement des pop-up au wagon. En fait, quand le wagon était fermé le dimanche, le samedi dimanche, on faisait des pop-up. En fait, on se rendait compte qu'il y avait quand même, d'un, on aimait bien ça. Et de deux, il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas du tout, qui passaient dans la rue et qui nous achetaient des fringues parce qu'en fait, ils étaient super contents du concept. Et on s'est dit, en fait, si on ouvrait en bas une boutique et en haut les bureaux, ce serait trop stylé. Et donc, on s'est mis à, on a récupéré cette boutique, on a réussi à l'avoir. On l'a retapé de nos propres mains, on a mis un peu de cash pour retaper la boutique. On pensait évidemment mettre 3 semaines de travaux, on a mis 2 mois, je crois. On avait passé nos 2 mois d'été dans les travaux. Et en fait, on a ouvert cette boutique sans recruter. Donc vraiment, les mecs, complètement, je t'ai rappelé aujourd'hui, on ne les referait pas du tout comme ça, mais on faisait rouler l'équipe web en boutique. Donc ils avaient une journée en boutique.
Ils sont sport, les mecs, quand même, pour accepter un truc comme ça.
Franchement, ils nous ont suivis, mais incroyables pour le coup. Ils nous ont suivis dans nos délires. Et du coup, on avait les bureaux en haut et on avait la boutique en bas. Et en fait, ça leur a vachement appris. Enfin, vraiment, toutes les personnes. On avait une personne en marketing qui faisait une journée de boutique et une personne en achat qui faisait une journée de boutique. Et en fait, tous les retours clients qu'elles avaient, était incroyable pour leur job après, en fait, au jour le jour. Et on s'est rendu compte de cette complémentarité de, en fait, quand on vend en retail,
t'as raison, ouais.
On a un retour client pur. Enfin, vraiment, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas d'écran.
Et puis quand tu fais ta collection, tu penses à la discussion que tu as eue avant. Enfin,
exactement.
C'est vivant, quoi.
Et en fait, tu vois En fait, tu vois ta cible. C'est moi, ce qui me frustre dans le web, c'est qu'on la voit pas. On n'est pas en discussion avec eux.
Tu l'estimes, tu la devines, mais tu la.
Exactement. Et là, du coup, en fait, t'as des cohortes toutes faites de personnes qui viennent. Et donc, du coup, par opportunité, on a ouvert cette boutique. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, il y a vraiment un attrait, en fait, au-delà des valeurs aussi du local qui allait bien avec nous, notre modèle. Le retail classique est pas mort, contrairement à ce qu'on pense. Et le mix n'est pas incompatible du tout.
T'en as d'autres, des projets de boutique ?
Ouais, on ouvre une boutique à Paris, là.
Ok, on monte à la capitale.
Ouais.
Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute.
Bon, bah canon, juste un mot sur la sélection des produits. Je pense à, en t'écoutant, à Emna Evrard, que tu connais peut-être, de Casidomi,
ouais.
Qui a... On peut faire un parallèle entre WeDressFair sur les fringues et Casidomi sur toute l'alimentation, durable.
Ouais.
Il y a... Dans leur démarche, il y a des trucs hyper intéressants d'ailleurs dans le business model, parce qu'ils marchent par abonnement. C'est un peu chelou, mais ils ont réussi à fédérer leur communauté et abonner. Donc ça, c'est un truc que tu peux regarder si tant est que t'es pas encore dessus. Et il y a une sélection des produits qui est hyper
strict,
définie, et il y a un cahier des charges. Vous en êtes là, vous, ou pas encore?
Ouais, nous, ouais. Dès le départ. C'était le premier travail qu'on a fait, Antoine et moi, ça a été de dire, OK, c'est quoi une marque éco-responsable, c'est quoi une marque qui ne l'est pas? Et en fait, comme on vient pas du milieu, nous, on a interrogé des experts du secteur pour comprendre, en fait. Et puis il y a plein de subtilités dans la mode. La chaîne, elle est tellement longue que, il faut être quand même assez calé sur le filage, le tissage, la confection, les conditions de fabrication, où est-ce que ça se fait, etc. La technicité de telle ou telle matière. Et moi, mon background scientifique a fait que, au départ, le premier truc que j'ai fait, c'est lire tous les articles scientifiques qui faisaient de la comparaison de telle et telle matière et de le vulgariser et de le mettre, en fait, sur notre site accessible. Et donc, très rapidement, la charte, elle s'est dessinée comme ça. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment une charte de sélection assez stricte sur laquelle on déroge jamais. Et donc, il y a trois chiffres qu'on vérifie. Le premier, c'est les conditions de fabrication et donc les pays de fabrication qu'on classe en 2 catégories, les pays à risque, les pays moins à risque. Et les pays moins à risque, c'est les pays qui sont classés comme la France. Donc, en fait, aujourd'hui, on considère que... Et la France est classée niveau 2, donc ce n'est pas les meilleurs. Mais on considère que tout ce qu'il y a au niveau de la France, les gouvernements font bien leur taf pour contrôler le droit du travail. Je crois qu'en France, on n'est quand même pas si mauvais que ça. On a tous peur des contrôles URSSAF. Enfin, voilà. Du coup, on s'est dit, tous les pays qui sont notés comme la France, on demande une traçabilité. Donc là, on va demander quand même des factures, des documents, pour être sûr que les produits de cette marque viennent bien des usines qu'elle nous donne. Enfin, nous, on n'est pas sur du déclaratif, on est vraiment sur de la preuve qu'on va récolter. Et après, il y a les pays à risque, donc là, les pays type Bangladesh, Vietnam, etc., sur lesquels, on n'empêche pas la sélection de ces vêtements-là. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas certains pays. Par contre, dans tous ces pays qui sont à risque, enfin, qui sont risqués, on demande des labels et des certifications très poussées. Et on ne sort pas de ces quelques labels-là qu'on demande. Et donc, ça, c'est des labels type Fairtrade, etc. Et donc, si la marque n'a pas ce label spécifiquement-là, on ne peut pas intégrer cette marque-là. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est 2 autres points plutôt côté environnement. Et là, en fait, nous, on a toujours eu à cœur de promouvoir des marques qui font les choses bien et qui ont vraiment une volonté de changement au cœur de leur business et pas juste une opportunité marché. Et dans la mode, ça se fait vraiment beaucoup. Type la capsule Conscious de H&M qui, si on la prend en tant que telle, elle peut être pas mal en termes de matière. En termes de conditions de fabrication, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est une goutte d'eau parmi toute leur production. Et en fait, le chiffre d'affaires qu'ils vont retirer, où est-ce qu'il va aller après dans la boîte, en fait. On ne sait pas ce qu'il va permettre de développer ailleurs ou quoi. Du coup, nous, on s'est toujours dit, on veut sélectionner des entreprises qui veulent vraiment changer les choses
dans leur ADN.
Et donc, pour poser ça, on s'est dit, on veut des marques qui aient plus de 75% de leur collection totale qui soit fait en matière éco-responsable. Et le 75, il est sorti pas du chapeau, il est sorti un peu se disant, OK, si on analyse cette marque, toi, en tant que consommateur, si tu regardes cette marque, est-ce que tu crois que c'est du greenwashing ou est-ce que tu crois que c'est vrai? Et en fait, en faisant ça, on s'est dit, OK, bah, le chiffre de 75, c'est la limite qui est pour nous et pour les consommateurs, ce qui est du responsable. Et souvent, en fait, les marques qui font du 75%, l'année suivante, elles font du 80% et l'année d'après, elles font du 100%. Et donc, du coup, ce chiffre-là est hyper important. Donc, on va vérifier que la marque, elle a ses 75% de collection éco-responsable. Et le deuxième chiffre, c'est qu'on va vérifier après au niveau du produit. Et au niveau du produit, on considère un vêtement comme étant un vêtement éco-responsable s'il a plus de 90% de sa matière totale qui est fait en matière éco-responsable. Et là, c'est pareil. C'est pour éviter la basket blanche avec les trucs verts, là, avec 2%. Je n'avais même pas vu. Mais blanche, iconique, qu'on connaît tous, et qu'ils sont fait attaquer d'ailleurs pour greenwashing et qui ont été jugés pour greenwashing, parce qu'ils disaient que c'était une basket recyclée, etc. Effectivement, il y a des matières recyclées dedans. Elles représentent moins de 10% du produit. Aujourd'hui, moins de 10% du produit.
Ça n'en fait pas une basket durable.
Exactement. Ça n'en fait pas une basket durable et corresponde avec ça. Donc, du coup, nous, on a posé le chiffre de 90%, chiffre qui est strict, mais qui varie en fonction des produits. C'est-à-dire aujourd'hui un t-shirt, on sait qu'un t-shirt, c'est très facile de trouver un t-shirt 100% en coton biologique par exemple. Donc sur un t-shirt, ben, un t-shirt qui aura 90% de coton biologique, ben, en fait on va privilégier quand même celui qui est à 100%. Inversement, sur des produits techniques comme le maillot de bain, super compliqué d'avoir des matières élastiques qui tiennent dans le temps, qui ne se déforment pas avec le sel, le soleil, etc.
Voilà, c'est pas une réponse à tout, quoi.
Voilà, là, on sait que c'est hyper compliqué d'avoir des matières éco-responsables et du coup, on descend la limite à ce qui est faisable techniquement aujourd'hui, c'est-à-dire...
Dans les meilleurs standards du truc, mais qui reste quand même...
C'est ça. Et du coup, pour le maillot de bain, c'est 78%. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même ce... Donc, on a mis 90 parce que c'est la moyenne de tout, mais on a des variations.
Ok, un mot sur le... J'en parlais avec Laure Babin de Zeta Shoes, que tu connais sûrement,
ouais,
en tout cas la marque. Et j'avais été marqué par l'expérience... entre guillemets, l'approche durable qui n'était pas uniquement sur les produits, mais aussi sur l'expérience utilisateur, sur même en pensant à la fin de vie du produit, c'est-à-dire qu'une fois que ta basket est défoncée et que tu n'en veux plus, on a une solution qui va permettre de la recycler. Ou voilà. Donc, tu peux l'envoyer, il y a une usine qui est préparée à la recevoir. Et j'avais été marqué par ça. Est-ce que vous êtes aussi rentré dans une... au-delà des produits que tu sélectionnes, est-ce que en tant que boîte e-commerce ou boutique ou employeur ou service client, ou je ne sais pas, vous êtes aussi rentré dans une durabilité entre guillemets global. Étendue et il y a des éléments qui peuvent être partagés sur ce que ça veut dire durabilité en tant qu'employeur ou en tant qu'entreprise autre que par les produits.
Au-delà de durabilité, il y a aussi tout le côté social qui nous importe beaucoup et transparence, etc. Donc, c'est ce qu'on demande en transparence aux marques qu'on intègre, on se l'applique à nous-mêmes. Notamment, par exemple, quand on a créé les statuts de l'entreprise, on a créé une entreprise au statut économie sociale et solidaire. Donc, on l'a vraiment inscrit dans nos statuts, la recherche d'un but social et environnemental, des différences de salaire qui ne soient pas énormes. Enfin, voilà, on a vraiment... aussi créer un modèle d'entreprise qui correspondait au modèle de société qu'on voulait aussi pour demain et pas uniquement de la vente de produits éco-responsables mais en fait aussi structurellement
une structure qui
correspond à nos valeurs. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, après sur tous les services et tout ce qu'on a aujourd'hui, on réfléchit. Donc on réfléchit à l'impact que ça peut avoir derrière. Donc on a choisi une banque qui était
pas Gringotts encore, si ?
Non, on peut.
Ils font pas ça.
Mais on a choisi à la base, on voulait la nef. Très compliqué d'avoir la nef au tout départ des projets. Ils financent pas trop les projets au tout début. Mais du coup, on a eu le pôle ESS, économie sociale et solidaire de la Caisse d'épargne. On a choisi après un fournisseur d'énergie verte. Donc on a Enercop dans nos bureaux, dans toutes nos, enfin dans les boutiques. Les packagings, c'est pareil, ça a été une grande réflexion. On s'est dit, est-ce qu'on fait des packagings réutilisables ? Finalement, on doit toujours avoir un juste milieu entre on va au bout des choses, en tout cas, on va au bout de la réflexion, mais après, en termes de coût pour l'utilisateur et de coût pour la structure, est-ce qu'on est capable d'avoir ces coûts-là ? Et du coup, des fois, on est quand même obligé de faire des compromis. Notamment sur les packagings, on a fait des compromis. On ne peut pas faire aujourd'hui des colis réutilisables. Malheureusement, ça coûte beaucoup trop cher et pour nous et pour le client. Par contre, ce qu'on a choisi, c'est la moins pire des solutions, on va dire, et celle qui a l'impact la moindre en dessous du colis réutilisable, qui est du packaging recyclé, recyclable, fait en Europe et compostable. Et du coup, tous nos colis, ils sont comme ça et adaptés à la taille. Souvent, les clients...
Ça, c'est beaucoup plus cher ou pas qu'un carton normal ? Enfin, c'est un gros effort économique ?
C'est un effort, ouais, économique, ouais. Okay. Bah, notamment sur de la provenance.
Je dis pourquoi
provenance.
Tout le monde ne le fait pas, en fait, mais peut-être que...
Ouais, bah, notamment la provenance, j'avoue, les cartons chinois sont des phytos de concurrence, ouais.
Ouais, j'imagine.
Mais effectivement, c'est pareil, tu vois, dans tes colis, tu mets souvent des petits stickers, tu vois, pour fermer tes colis, etc. Ben nous, les stickers, on est allé chercher un fournisseur de stickers en maïs. Du coup, c'est des polymères de maïs. Du coup, tu peux le composter et tu peux le recycler. Et ça, c'est pareil, c'est un coût supplémentaire. Mais voilà, c'est dans la démarche, c'est dans quand tu veux donner une communication, enfin, dire que voilà, ton colis, aujourd'hui, 100%, il a été réfléchi et conçu comme ça, et ben du coup, il faut aller un petit peu plus loin. Ouais.
Mais tu ne pourrais pas faire autrement. Enfin, ça serait antinomique avec les valeurs et le projet.
Et la dernière, peut-être le dernier truc, c'est que là, on lance on a de la réparation sur WeDressPart.
Oui,
donc, voilà. Nous, on n'a pas encore réfléchi globalement. Enfin, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'adresser cette question de fin de vie du vêtement parce que la seconde main est très compliquée à mettre en place.
Ça serait votre marque, vos produits, vous le maîtriseriez. Là, c'est quand même vous êtes lié à des fabricants et des marques qui ont peut-être des politiques.
Voilà. Et c'est très compliqué, ouais. Et du coup, nous, on propose de réparer, par contre.
Et ça, c'est marrant, ça me fait penser à Patagonia. C'est une inspiration. Vous avez des marques comme ça qui vous inspirent beaucoup
Patagonia, énormément, ouais. Déjà, quand on a créé WeDressPart avec Antoine, on a lu le livre de Yvon Chouinard qui est Devenir entrepreneur malgré moi. Qui est incroyable de modestie dans la création de sa structure et qui, même là, quand il sort de la structure, donne ses parts. C'est incroyable tout ce qu'il fait, quoi, pour donner ses parts à une holding qui reverse du coup 100% de ses bénéfices pour des associations. Ces boîtes-là sont des boîtes qui ont réussi, entre guillemets, et qui ont maximisé l'impact qu'ils pouvaient avoir. Et ça, ça nous inspire beaucoup. Et il y a une autre structure qui nous inspire beaucoup, qui s'appelle Make Sense. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une association qui, à la base, fait de l'intelligence collective. Ils ont monté plein de choses après à côté. Et ils sont incroyables en termes de structuration d'équipe, structuration d'entreprise, motivation des équipes. Enfin, c'est tous les projets qui montent marchent super bien, et notamment parce que l'humain est vraiment au cœur de leur... vraiment, le collaborateur est au cœur de leur projet. Et en fait, ça marche super bien. C'est la première structure que je vois vraiment qui est comme ça, sur une organisation assez libérée et qui marche aussi bien, quoi.
Un truc qui m'a un peu interpellé dans le business model dans lequel vous êtes, c'est que vous êtes en train de promouvoir la slow fashion. Donc, on consomme moins, on consomme mieux. Ça peut paraître être un peu paradoxal par rapport au fait de monter une boîte avec des enjeux de rentabilité, avec un e-commerce qui est un peu challengé en ce moment. Est-ce que d'un point de vue marketing, ça a des conséquences d'être dans ce monde de « je consomme moins, donc je push moins à la consommation » ? Et du coup, est-ce que ça a des conséquences opérationnelles chez vous, ce paradoxe un peu là ?
Oui, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences parce qu'on se prend la tête tout le temps.
Est-ce que c'est la limite ? Est-ce que je ne sais pas dans ça ?
C'est exactement ça. En fait, on veut pouvoir promouvoir une mode différente, mais on ne veut pas pousser à la surconsommation. Et donc, il y a une limite à trouver. Et de façon très... clair sur une image, c'est par exemple quand tu fais des pubs sur Facebook, bah, tu as un taux de repeat que tu ne vas pas mettre en mode « ok, illimité ». Nous, on va essayer de caper un peu le taux de repeat. Je crois qu'il est à 3, enfin, je ne sais plus. Enfin, voilà, assez bas, quoi. Et en fait, dans tous les choix qu'on a et tous les choix qu'on fait, on essaye de donner un seuil. Et en fait, c'est, enfin, voilà, dans tout ce qu'on a essayé d'entreprendre en termes de marketing payant, il y a une réflexion derrière. Et notamment, par exemple, les soldes, la période des soldes dans la mode, c'est des choses qui sont... Bah, qui existe,
Black Friday,
etc. Le Black Friday, on a décidé que ce ne serait pas un sujet chez nous. Enfin, on ne ferait pas le Black Friday. Par contre, les périodes de soldes, bah, c'est un sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on est revendeurs. On est tributaires de...
Des stocks prix, que tu possèdes aussi.
Exactement, des stocks que tu as et des prix qui sont imposés par les marques. La marque, quand on a acheté son stock et que elle, chez elle, elle le vend moins 50%, bah, en fait, nous, si on le vend plein pot, bah, en fait, on ne va le vendre à personne. Donc, en fait, on est obligé, on est un petit peu obligé de suivre.
Ouais, t'es dépendant.
Le prix, exactement, le prix des marques, enfin, que les marques vont appliquer. Et donc, on s'est dit, au lieu de subir ce truc-là, est-ce qu'on ne peut pas repenser ce modèle ? Et on a créé, ça fait un an et demi maintenant, qu'on a créé le système de solde libre. Et donc, toutes les périodes de solde chez WeDressFair, tous les produits qui sont soldés, il y a un macaron solde sur le produit. Et en fait, chaque consommateur peut choisir la solde, enfin la réduction qu'il va appliquer entre moins 10 et moins 40%, et va en gros se poser la question de aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de ce vêtement ? Si oui, à combien est-ce que je peux l'acheter ? Et derrière cet achat et derrière la réduction que je vais choisir, qu'est-ce que ça va impliquer pour la structure ? Et en fait, on a trouvé ce processus vachement intéressant parce que au lieu d'être dans un truc où en fait on essaye de réduire les frictions d'achat, nous on est en train d'en rajouter un supplémentaire puisqu'en fait on te dit « Ok, tu as choisi ce produit en solde, maintenant choisis ta réduction. » Et en fait, rien que le fait de dire « Choisis ta réduction », tu es déjà dans un processus de réflexion où tu ne vas pas forcément dire « Ok, bah, moins 40 », tu vas dire « Ok, si je prends moins 40, en fait, ouais, ça a des implications parce que en fait, là, je vais prendre la réduction la plus importante. » Et donc, du coup, derrière, qu'est-ce que ça représente pour la structure et ça ? Et c'est super intéressant. En vrai, c'est super intéressant. On a des retours de ouf là-dessus. Donc, la majorité prennent quand même la réduction la plus grande, mais derrière... Enfin voilà, nous faisons des réflexions sur mais moi la prochaine fois je prendrai
une sorte
moi.
D'éducation
c'est un problème. En fait tous les retours qu'on a derrière ça ils sont trop fous. Et donc du coup c'est un peu ça le marketing un peu plus responsable, c'est se poser la question de quand on fait une action jusqu'où on peut aller et est-ce que on peut pas revoir le modèle ou en tout cas reposer la question au consommateur plutôt que d'être dans une incitation à l'achat ou l'utilisation d'un neuromarketing un peu trop poussif qui fait qu'en fait, tu n'es plus maître de ce que tu vas choisir parce que tu as mis le bouton en vert et que du coup, en fait, le gars, il va cliquer parce que son cerveau lui dit de cliquer là, quoi. On est plutôt dans un truc inversé où on se dit, on veut conscientiser les gens à faire cet achat-là. Et donc, du coup, comment on fait ça ?
Autre truc sur l'approche de l'achat et de l'expérience d'achat, est-ce que... C'est parce qu'on est, assez contre, avec des valeurs dans l'acte d'achat qui sont particulières, qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à l'impact social. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus tolérant vis-à-vis de la qualité des produits ou vis-à-vis des produits ou vis-à-vis même de l'expérience du site internet ou est-ce que l'exigence, quand tu es sur Zalando, Amazon ou autre, finalement, elle est à peu près la même et ça se trouve, c'est une question complètement idiote, je sais pas. On pourrait imaginer qu'on a plus de compassion peut-être pour un UX ou un UI plus simple. Je sais pas si c'est complètement...
C'est une bonne question. Et on a souvent cette discussion-là. Alors nous, on est complètement contre le fait de se dire, parce qu'on est une entreprise responsable, on peut demander plus d'efforts à nos clients.
Et est-ce que eux, tu crois, enfin peut-être pas.
Alors il y a beaucoup de bienveillance, effectivement. Nos clients, nous remontent beaucoup.
Ouais,
je pense.
Ils sont tolérants.
Exactement. Je pense un peu plus que. Alors je sais pas parce que j'ai jamais fait l'inverse, donc je peux pas te dire, tu vois. Mais en tout cas, nous, ce qu'on s'applique, c'est d'avoir des standards quand même assez élevés. Et aujourd'hui, si nos concurrents ils livrent en 72 heures et que nous on n'est pas capable de livrer en 72 heures, donc En calculant quand même l'impact environnemental que ça a derrière, etc., si on est OK avec ça et qu'on a réussi à trouver une solution, en fait, on va s'élever à ces standards-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si aujourd'hui, on ne donne pas une solution qui est une alternative crédible à ce qui existe aujourd'hui, en fait, le fait de mettre un frein à la facilité des clients à passer en fait à cette alternative-là, eh ben, en fait, va faire que tu vas pas le tenir, tu vas pas le garder parce que tu as quelque chose de beaucoup plus simple à côté. Donc, on n'ira quand même jamais sur des modèles type Amazon où vraiment, c'est un claquement de doigts le truc qui t'arrive en 4 heures, quoi, parce qu'on n'y arrivera pas.
Écologiquement, donc, ça peut pas marcher, quoi.
Écologiquement et même socialement, enfin, c'est monstrueux. Et en fait, je pense que la quasi-totalité des gens aujourd'hui connaissent les dessous de ces modèles-là. Donc, nous, on va sur ce qui est quand même socialement et écologiquement possible. Mais par contre, on n'abaisse pas les standards en se disant oh, c'est bon, c'est des consommateurs tolérants, ils vont accepter qu'on livre en 3 semaines. Non, enfin voilà, l'idée c'est quand même de garder cette crédibilité-là, quoi.
Un mot sur la partie com. Tu me diras si tu as une secret sauce, mais on vous voit beaucoup. Tu es passé par, il n'y a pas longtemps, sur France Inter. Tu es passé aussi à l'Élysée. Enfin, vous êtes passé à l'Élysée. Vous avez un compte.
Pas nous, mais. Ouais, le groupe.
Le groupe est passé, voilà. Vous êtes passé, enfin, sur Insta, vous êtes aussi sur un compte assez riche avec, je crois, 75 000 followers ou pas loin, qui fait un peu office de média dans l'univers de la mode responsable. Comment cette médiatisation, et je pense au compte Insta notamment, comment c'est géré aujourd'hui en interne? Qui contribue et comment vous animez cette communauté-là?
Il y a plusieurs questions dans la question.
Choisis celle que tu veux.
La médiatisation, je pense que la raison pour laquelle on a été assez médiatisé, c'est que derrière We Dress Fair, il y a quand même un combat un peu militant, et même carrément militant. Et donc, du coup, en fait, il y a un peu ce côté revendication qui passe assez bien dans les médias. Et on va nous chercher sur ces questions-là, en fait. Quand Chine ouvre un pop-up à Paris, alors j'avais fait l'action à Lyon, mais en fait, quand Chine ouvre un pop-up à Paris, bah, y a France Info qui m'appelle en me disant le lendemain, « Ok, Marie, est-ce que tu peux être sur, en direct sur l'émission La Matinale demain matin ?» Parce que là, ils ouvrent un pop-up à Paris, nous, on veut savoir ce que t'en penses. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un peu le côté, on revendique quelque chose de différent, on propose une alternative aujourd'hui, on reste marginal aujourd'hui dans le secteur du textile, et donc on nous entend quand même un peu plus que si on était mainstream et que bah voilà, on était la Xème marque qui lance sa capsule éco-responsable. Enfin, et donc du coup, je pense que le fait d'avoir ces discours-là, le fait d'avoir une authenticité en fait du message, parce que personnellement, on est aussi des personnes très engagées dans notre vie quotidienne, fait que on arrive plus facilement à passer dans les médias. Après, ma secret sauce, je sais pas si c'est une secret sauce, hein, mais j'en sais rien en fait. Enfin, c'est vraiment c'est des prises de position qu'on a, qu'on a diffusées assez rapidement sur les réseaux sociaux, qui fait que notre compte est monté de façon organique, de façon assez rapide. Et mon LinkedIn, c'est pareil. Sur LinkedIn, j'ai des visibilités énormes. Sur le post sur Chine à Paris, j'ai plus d'un million d'impressions de personnes qui ont vu ce post-là. Parce que justement, je pense que comme il y a une revendication derrière, il y a un débat, il y a un vrai débat sociétal derrière qui fait qu'en fait, ça intéresse énormément les personnes.
Ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas fin, il n'est pas à jouer, il est authentique.
C'est ça, c'est même pas un truc que... Alors, pour te dire, tu vois, le truc Chine, c'était le samedi. C'est le jeudi où on se dit, non, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Et donc, du coup, on a passé juste la journée du vendredi à se dire, on sort des phrases, on fait des affiches, on va là-bas, on écrit un communiqué de presse. On a fait ça en une journée.
C'était spontané.
C'était spontané, c'était authentique, c'était fait. Et en fait, on a eu de la visibilité incroyable là-dessus. Et de la sensibilisation qui était hyper importante pour nous. Et la deuxième question, c'était la com chez nous en interne. On est un peu en train de revoir tout ça là maintenant, donc la structuration de l'équipe, elle n'est pas définitive, mais on a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, donc elle a fait toute la partie contenu des réseaux sociaux, et moi qui en grande partie écris tout ce qui est info, RSE, etc., analyse d'actualité, enfin voilà, c'est plutôt moi qui suis sur cette partie là ouais.
Ok, un mot sur la partie entrepreneuriale avec tes associés. on peut pas parler de tout, mais il y a un sujet qui est intéressant, c'est l'énorme attention que vous avez sur l'organisation des équipes,
ouais,
sur la performance de l'équipe, qui est apparemment un sujet sans fin, dans lequel vous êtes en train de vous challenger en permanence.
Ouais.
Donne-moi un peu le contexte de vos discussions internes sur comment l'équipe doit être organisée, et quels sont les challenges que vous essayez de résoudre.
Putain, on en a plein. Enfin, il y en a tout le temps. Hein. Je pense que c'est pareil pour toi, mais en fait, on se demande toujours, est-ce que on a les bonnes personnes au bon endroit et est-ce que les compétences qu'elles ont et les talents qu'elles ont sont développés à leur maximum. Et du coup, on essaye toujours d'analyser en fonction des besoins de la structure aussi. Est-ce que cette personne-là, ses talents, c'est ça? Là, j'ai un trou. Enfin voilà, j'ai ce besoin-là. Est-ce que cette personne, je peux la mettre là? Et en fait, on est toujours en train de se dire, là, j'ai un besoin qui se dessine. Dans combien de temps je vais réellement avoir vraiment besoin d'une personne, ouais, d'un poste à 100%? Est-ce qu'en interne, j'ai pas quelqu'un qui est très bon là-dessus, que je vais pouvoir changer pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre ailleurs? Donc là, en ce moment, on est en train de revoir notre équipe marketing et c'est vraiment le sujet numéro un, enfin, avec Antoine, qui nous prend la tête tous les soirs parce qu'on se dit, attends, mais elle, est-ce que tu penses pas là? Et elle a quand même ces compétences là, tu penses pas qu'on peut la mettre là? Enfin, voilà. Et en fait, ça, c'est, enfin, je trouve, c'est ouf parce que, ben, on fait aussi beaucoup d'entretiens avec eux sur toi, tu te sens bon dans quoi? Tu te sens plus faible dans quoi? Où est-ce que tu te vois demain? Est-ce que tu es d'accord avec moi si moi je te dis que je te vois là demain? Enfin, et en fait, on est toujours en train de challenger, tu vois, tous ces, en fait, la position de chaque personne à chaque poste pour exploiter. C'est vraiment moche ce mot, j'aime pas, mais pour maximiser les talents,
potentiel.
Ouais, le potentiel et les talents, et en fait l'ambition qu'ils ont aussi de développement dans la structure et de motivation, et ça c'est trop cool, enfin vraiment moi j'adore faire ça.
Canon. Sur cette partie entrepreneuriale, c'est un des trucs sympas, effectivement, de voir en plus quand ça marche.
Ouais.
Vous avez fait une levée de fonds de 2 millions d'euros, je crois,
ouais,
fin 2022, ou ouais, Q3, Q4 2022.
Ouais.
Elle va servir à quoi? Parce que je crois que vous avez été assez prudent dans sa consommation.
Ouais.
Vous avez quoi comme projet? À quoi vont servir ces fonds?
Alors juste, je remets le contexte. On a été prudent dans la consommation de cette levée de fonds parce qu'on a mis, on a levé des fonds en juillet, août 2022. Et on n'a toujours pas recruté l'équipe parce que du coup on va s'en servir notamment pour recruter cette équipe market, pour soutenir les équipes parce qu'on veut atteindre plus de notoriété, rentrer plus de marques. Enfin, voilà, c'est vraiment l'ambition. L'ambition du Dressfar, c'est de. On est déjà connu sur le secteur, mais c'est de vraiment s'imposer, être un leader et être un leader d'opinion et de pouvoir en fait aujourd'hui. Être dans toutes les têtes des Français qui, quand ils se posent la question de consommer un vêtement et qu'ils ont un peu une sensibilité éco-responsable, sociale, de pouvoir avoir le réflexe We Dress Fair. Donc ça, c'est vraiment la mission qu'on s'est mise derrière cette levée de fonds. Et on a mis, tu vois, un peu plus de... Ça va presque faire un an. C'est... Enfin, ouais, 8 mois pour avoir toutes ces réflexions de, en fait, c'est quoi la meilleure équipe qu'on peut construire pour... Pour maximiser cette levée de fonds et aller plus loin. Quoi.
Faire ses propres produits, c'est pas à l'ordre du jour.
Ouais, on y a testé quand même.
Je pense à Casidomi qui a une ligne un peu de marque propre qui cartonne pas mal.
Ouais,
donc
si,
ça peut être une dimension intéressante.
Si on y pense, notamment sur une problématique qu'on a chez nous, c'est que les produits sont plus chers. Et ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, les produits qu'on aura seront plus chers que du milieu de gamme qu'on trouve aujourd'hui. Donc, nous, on est plutôt sur des prix de ce qu'on appelle les prix de marque. Donc, un jean chez nous, c'est le prix d'un jean Levi's. Une basket chez nous, c'est le prix d'une basket Nike. Enfin, voilà. Et tout le monde ne peut pas se payer ce type de vêtements. Et en fait, si on veut démocratiser la mode responsable, il faut aussi que ce soit accessible à des personnes qui ont moins les moyens. Et... la solution à ça, c'est de développer des marques distributeurs. Parce que la marque distributeur, du coup, tu peux couper un petit peu les marges dessus. Et voilà, t'as le budget marketing en moins, t'as moins de, enfin, t'es pas obligé de faire des marges aussi conséquentes que font les marques. Enfin, et du coup, on s'est posé la question, on a commencé à développer le projet, on a commencé à le mettre sur les rails, et puis après, on a privilégié d'autres projets plutôt que celui-là, mais ça arrivera un jour, ouais.
Bon, excitant. Dernière question, t'es enceinte.
Oui.
7 mois.
Oui.
Ça se voit pas, mais ça approche.
Ça se voit que...
quand on regarde dans le détail, oui. Et c'est flippant ou pas quand t'es entrepreneur comme toi, entrepreneuse comme toi, si ce terme existe, de voir cette période arriver qui va te mettre une contrainte de temps nouvelle. Tu la vis avec anxiété ou non, finalement pas un sujet.
En plus de ça, c'est un bébé surprise. Donc c'est un bébé qu'on n'attendait pas à ce moment-là. mais c'est un joli projet supplémentaire. Et pour la petite histoire, je suis en couple avec Antoine. Donc c'est ça qui est flippant. C'est que du coup, on va tous les deux être en congé paternité, enfin parentalité.
Et tous les deux changer de vie.
Et on va tous les deux changer.
Bon, bah, très bien, au moins tout le monde est, vous allez vous comprendre entre associés.
Et oui, voilà. Au moins, voilà, on est alignés voilà. Sur un truc. Mais c'est flippant, oui. Après, ça demande de l'orga. Enfin, ça demande un petit peu d'organisation. Et ce qui est flippant, c'est que là, on recrute 12 personnes, tu vois. Et que les 12 personnes, ben, faut qu'elles arrivent, faut qu'on les forme et faut qu'elles soient opérationnelles avant que je parte en congé.
Et vous êtes encore trop petit pour déléguer tous ces sujets-là.
Et voilà. Et, exactement. Donc, en fait, on est un peu, ce qui est flippant, c'est que la phase de l'entreprise, elle est pas exceptionnelle, pour avoir une grossesse sereine en même temps. Mais je trouve que ce qui a été trop cool, c'est que, le fait de tomber enceinte aussi, ça a remis un petit peu le sujet d'opérationnel en tant que fondateur, enfin de l'opérationnel en tant que fondateur. Et avec Antoine, on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup trop dans l'opérationnel, qu'il fallait qu'on sorte de ces sujets-là. Déjà d'un, parce qu'en fait, on n'est pas les meilleurs experts de ces sujets. C'est juste, c'est des choses qu'on aime bien et qu'on fait parce que on l'a toujours fait depuis le départ. Mais en fait, il y a des personnes meilleures, enfin, qui seraient meilleures que nous sur ces sujets-là. Genre, notamment, je gère toute la partie CRM. Genre,
tu vas toucher les limites de tes compétences.
Et voilà. Et en plus de ça, je vais partir en congé mat. Ben, en fait, aujourd'hui, on a ouvert un poste de chargé CRM parce qu'en fait, d'un, je peux plus le faire. De deux, en fait, ben, moi, je fais pas que ça. Donc, en fait, j'ai pas le temps non plus de lire tous les trucs sur Klaviyo, machin, enfin, pour optimiser les choses. Et donc, du coup, ben, déléguer est devenu un petit peu notre mot.
C'est une accélération à la délégation, là.
Exactement. Bon. Et puis, du coup, se replacer nous aussi, repenser notre rôle en tant que fondateur de la boîte et dirigeant de la boîte et le rôle qu'on aura demain. Et ça, c'est vachement intéressant aussi.
Je vais te faire une petite parenthèse et la boîte aura déjà bien bougé au moment où tu vas revenir. Merci pour cette expérience, pour ce partage et toutes ces insights, c'était canon. On passe aux questions un peu rapides. Équilibre vie pro, vie perso, c'est possible ou utopique quand tu es entrepreneuse?
Je pense que c'est possible, mais après un certain niveau de structure, un certain niveau, ouais, je pense.
Quelle est la plus grande fierté dans ta vie jusqu'ici?
Moi, je pense que c'est d'avoir toujours été guidée par ce que j'avais envie de faire. Et de ne pas prendre les choses parce qu'on me disait, en sortie d'école, prends l'école d'ingénieur parce que c'est mieux. Moi, j'ai dit non, je vais à la fac.
Tracer ta propre voie. Il y a un truc essentiel que tu as appris depuis le lancement de WoodRestFair, un learning qui t'a marqué.
Se faire confiance.
Mm-hmm. Mm. Il y a une boîte qui t'inspire en ce moment dans l'exécution, dans sa communication, dans son positionnement.
Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Make Sense est une boîte hyper inspirante. Ouais.
Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite qui t'a marqué ou quelqu'un qui t'inspire en termes d'individu?
Ouais, il y a Julia Fort de la marque Loom.
Loom, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une marque importante pour toi.
Ouais,
pour laquelle tu es assez proche.
Ouais.
Vous êtes assez bien outillés parce que tu travailles avec des geeks ou en tout cas des ingénieurs, des techs. Est-ce qu'il y a des outils, des applications que tu utilises au quotidien, toi, qui te sont vraiment utiles en termes de productivité ou d'efficacité?
Bizarrement, je vais te dire un truc qui est low-tech, mais chez moi qui marche très très bien, c'est quand j'étais en prépa, je faisais ça, c'est moi j'utilise le calendrier horaire. Je fais une liste, tu vois, au lieu d'avoir des projets, des machins, etc., où tu te dis, ok, j'ai ça à faire dans ma journée, moi je découpe ma journée avec des plages horaires pour tel sujet. Et en fait, j'en déroge pas, c'est-à-dire... si j'ai le sujet RH à traiter.
Deux heures pour traiter le sujet.
Voilà. Et en fait, je n'ai pas plus. Et du coup, je suis obligée de le faire.
Je note. est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir?
Ouais, mais ce n'est pas une app. Je t'ai vu, je fais tous les trucs contraires. C'est genre mettre les limites.
DAP.
Ouais, les limites DAP. Franchement, quand tu bosses dans la com, enfin moi qui
tu peux t'embarquer.
Non, mais c'est de l'enfer. Et en fait, à chaque fois que du coup tu veux faire une petite pause et du coup tu vas sur les réseaux sociaux et en fait t'es embarqué dans la boîte tout le temps. Enfin tu vois, moi c'est le réflexe. Du coup j'ai des captures d'écran, mais enfin.
Ouais. Je connais.
Pas d'avoir des captures d'écran dans mon téléphone et du coup en fait il faut arrêter ça quoi. Quand tu coupes, tu coupes. Et du coup, ben, mets les limites. Ouais, les limites des apps, c'est la vie. Ouais.
On parlait d'une personne que tu pourrais me recommander à avoir à ce micro. On parlait de Mathieu Dardaillon. Ouais. Je devance la réponse. C'est une très bonne idée. est-ce qu'on t'a donné un conseil qui s'est avéré être utile jusqu'ici?
On m'a donné plusieurs conseils. Mais il y a un conseil que ma mère m'a donné il y a très longtemps et que je trouve ultra utile dans l'entrepreneuriat, c'est comparaison poison. Et enfin voilà, ça parle de lui-même. Ouais.
Bien. Est-ce qu'il y a un son ou une musique que tu pourrais écouter en boucle en ce moment?
Alors en ce moment, j'écoute des trucs qui me calment. J'aime bien. Donc moi, quand je bosse, j'écoute du piano beaucoup, et j'écoute ce qu'on appelle du handpan. Je sais pas si tu connais. C'est un espèce de percu.
Le dôme, le cuir. Ouais. Ah, mais ça, je connais bien, parce que moi, je suis un fan de percu, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça.
Handpan. Oui.
Ok, canon. C'est suisse, je crois d'ailleurs. Bizarre. Chelou. est-ce que tu peux nous dire quelque chose de toi, sur toi, que les gens seraient surpris d'apprendre?
Ah ouais, j'avais réfléchi à cette question. Je suis hyper laxe, par exemple. Ouais, voilà. Je
peux applaudir. T'es très souple, ça veut dire ça.
Ouais, ouais. Je peux applaudir des pieds, les jambes tendues.
Tu peux applaudir des pieds, les jambes tendues. Chelou. est-ce qu'il y a une habitude que tu essaies de prendre ou au contraire d'arrêter en ce moment?
En ce moment, je suis enceinte et j'aime le sucre. Et là, il faut vraiment que j'arrête, sinon je vais prendre 40 kilos. Quoi.
Tu peux nous donner un bouquin qui t'a marqué?
Ouais, alors deux bouquins que j'aime beaucoup. Non, un bouquin surtout. Le siècle bleu de Jean-Pierre Gou. C'est un roman qui aborde les questions du futur de la Terre. Que j'ai beaucoup aimé. Ouais.
Ok, je ne connais pas. Est-ce que.
Sinon, il y a Damasio, c'est Les Furtifs de Alain Damasio.
Ok, je ne connais pas non plus. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir le même parcours que toi, ce serait quoi?
Et ton propre parcours?
Pense à toi et suis ta propre voie.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant de t'entendre. Et à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.